Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'infos. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Pour moi, ils n'ont plus rien à faire dans l'Union européenne. Hélas, dans notre système, personne ne peut les forcer à partir. Il faut agir étape par étape et espérer entre-temps qu'ils vont revenir en arrière.
Haro sur la Hongrie et sa loi anti-LGBT qui scandalise les dirigeants européens. Sommet sous haute tension ce soir à Bruxelles. Que contient vraiment ce texte interdisant la représentation de l'homosexualité auprès des mineurs? Que va-t-il changer pour les Hongrois? Explication dans ce journal. Seulement 200 000 primo-injections chaque jour, moitié moins qu'il y a un mois. On doit faire beaucoup mieux, appelle Jean Castex, inquiet de la progression du variant Delta dans les Landes. La réponse de Clémentine Autain à Manuel Valls et ses critiques contre la France insoumise. L'ancien Premier ministre socialiste l'a annoncé ce matin sur Europe 1. Il votera Valérie Pécresse dimanche pour les régionales en Ile-de-France. Autre personnalité à s'exprimer, Nicolas Sarkozy, l'ex-chef de l'État, appelle à voter Renaud Muselier en PACA pour contrer le RN de Thierry Mariani. Dans ce journal également, l'affaire Omar Mathué. 30 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal, l'avocate d'Omar Radad affirme disposer de preuves scientifiques innocentant le jardinier. Une demande en révision de son procès a été déposée. Et puis le foot, fini les calculs. L'UEFA supprime de ses compétitions la fameuse règle du but à l'extérieur. La météo, elle va considérablement s'améliorer. Demain, de très larges éclaircies attendues sur tout le pays. Mais attention, on n'en a pas encore fini avec les orages, nous dira Laurent Cabrol. La bourse de Paris, elle a clôturé et ce soir en forte hausse, plus 1,22% à 6631 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes, vous ne la connaissez peut-être pas. N26, c'est son nom, veut pourtant devenir l'une des principales banques de France. Son directeur général sera l'invité ce soir d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des tensions, il y en a toujours lors des réunions de famille, mais peut-on réellement qualifier ainsi l'Union européenne tant certains de ses membres bafouent le socle de valeurs communes? C'est la question que l'on peut se poser ce soir à l'occasion du sommet européen où il est question de plan de relance, de politique migratoire, mais surtout de la loi anti-LGBT votée en Hongrie. Le texte qualifié de honte par la présidente de la Commission européenne vise à interdire la promotion et la représentation de l'homosexualité auprès des mineurs. Tollé au sein des 27 qui sont nombreux à pointer du doigt Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, présent ce soir à Bruxelles, Isabelle Horry.
Oui, le sujet a été ajouté in extremis à l'ordre du jour, mais à son arrivée, le Premier ministre hongrois semblait très serein et sûr de son bon droit.
Sous le régime communiste, je me battais pour la liberté. L'homosexualité était interdite. Je me suis battu pour leurs droits. Je les défends, mais cette loi n'a rien à voir. Elle porte sur les droits des enfants et des parents.
Il en faudra plus pour convaincre une bonne partie de ses collègues. Les pays du Benelux sont en pointe dans ce combat. Le Premier ministre belge est arrivé avec le drapeau arc-en-ciel épinglé sur son veston. Le Néerlandais Mark Rutte l'a fait hisser sur son ambassade. Il est particulièrement remonté contre le Hongrois.
Pour moi, ils n'ont plus rien à faire dans l'Union européenne. Hélas, dans notre système, personne ne peut les forcer à partir. Il faut agir étape par étape et espérer entre-temps qu'ils vont revenir en arrière.
La Commission européenne est effectivement prête à lancer la première étape de la procédure d'infraction. En parallèle, 17 chefs d'État et de gouvernement ont signé une lettre commune. Ils s'engagent à continuer à lutter contre les discriminations envers les LGBT. Emmanuel Macron fait partie des signataires. Il espère aussi qu'Orban va reculer de lui-même.
Il nous faut avoir une discussion entre États membres. Elle sera franche, elle sera ferme. J'espère que dans ce dialogue, on trouvera aussi un chemin qui lui permettra de porter ce que sont ses priorités, mais en respectant pleinement nos valeurs. Et donc, de porter lui-même un changement de ce texte.
Mais dans la salle, Viktor Orban a des alliés ce soir, au premier rang desquels le Premier ministre de la Pologne.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Alors pourquoi cette loi provoque-t-elle autant de critiques? Quelles mesures contient-elle? Romain Oquet, vous avez lu ce texte. Que dit-il exactement?
Le texte clairement indique que la pornographie, au même titre que les contenus qui font la promotion du changement de sexe ou de l'homosexualité, doivent être interdits aux mineurs. Alors, quel contenu justement? C'est toute l'ambiguïté de cette loi, très vague et donc sujet à interprétation. Les ONG redoutent par exemple l'interdiction de certaines publicités. En 2019, des affiches de Coca-Cola montrant un couple d'hommes avaient déjà suscité des appels au boycott. Une censure qui pourrait aussi s'appliquer aux livres, aux films ou aux séries comme Friends ou Billy Elliot, par parce que l'homosexualité est un des sujets abordés. Ce flou législatif pour les associations, c'est aussi le risque d'un effet dissuasif chez les organisateurs d'événements publics. L'un d'eux s'interroge dans la presse hongroise. Comment s'assurer qu'un enfant ne passera pas dans les rues lors d'une Gay Pride ? Viktor Orban, lui, se défend. Cette loi ne concerne pas l'homosexualité, mais la façon dont un enfant apprend l'homosexualité. Un apprentissage aussi bien encadré par ce texte qui précise que désormais, les cours d'éducation sexuelle seront assurés par des organisations agréées par l'État.
Éclairage signé Romain Noquet pour Europe 1. En marge de ce sommet européen, Emmanuel Macron a appelé les Français à la plus grande vigilance vis-à-vis du variant Delta, responsable d'un rebond de l'épidémie dans les Landes. Il s'agit du seul département de France métropolitaine où le Covid progresse, comme l'a indiqué Jean Castex en visite aujourd'hui à Mont-de-Marsan.
On a constaté une reprise de l'épidémie. Le taux d'incidence a redépassé le seuil de 50 pour 100 000 habitants récemment. Et on a identifié, certes en nombre limité, mais en nombre suffisant pour que cela nous mobilise, la présence de ce variant Delta. Donc la situation des Landes, il ne faudrait pas qu'elle préfigure le développement de ce variant. C'est la raison pour laquelle nous essayons de mettre en place toutes les actions nécessaires.
En l'occurrence, l'envoi de 60 000 doses de vaccins supplémentaires et la livraison de 10 000 autotests dans les Landes. Le Premier ministre, qui, face à la progression de ce variant Delta, s'est inquiété du ralentissement de la campagne vaccinale, Anne Le Gall.
Voilà, nous vaccinons 200 000 personnes par jour en primo-injection. Et c'est trop peu, a indiqué ce matin Jean Castex, précisant que les prises de rendez-vous sont actuellement en décélération. Un message délivré dans les Landes sur fond d'inquiétude autour du variant Delta. Ce variant plus contagieux que le variant britannique représente 70% des cas positifs dans ce département. Or, selon une étude britannique, même face au variant Delta, les vaccins Pfizer et AstraZeneca permettent d'éviter les hospitalisations dans plus de 90% des cas, à condition d'avoir reçu deux doses, d'où l'appel à la responsabilité des Français, même au-delà du seul département des Landes, car au niveau national, ce variant Delta est impliqué dans 10% des nouvelles contaminations et il risque de représenter fin août 90% des nouvelles infections en Europe, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Ces experts mettent en garde contre un relâchement trop rapide des gestes barrières cet été. Tant que la population n'est pas vaccinée avec deux doses, en France, un tiers des adultes seulement se trouvent dans cette situation.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le
22-22-30. J-3 avant le second tour des élections régionales où en Ile-de-France, la fusion des listes de gauche fait beaucoup réagir. Pour rappel, Audrey Pulvar, soutenue par le PS, et l'insoumise Clémentine Autain se sont rangées derrière l'écologiste Julien Bayou. Une coalition verte-rose-rouge qui divise à gauche. Jean-Paul Huchon, l'ancien président socialiste de la région, appelle à voter pour Valérie Pécresse, la présidente sortante de droite, qui a également eu le plaisir ce matin sur Europe 1 d'entendre Manuel Valls annoncer qu'il votera pour elle dimanche. L'ex-premier ministre de François Hollande a dénoncé la présence de la France insoumise sur cette liste de gauche, parti qui, selon lui, a tourné le dos à la République. Des propos acerbes qui n'étonnent pas Clémentine Autain. Écoutez.
Manuel Valls, c'est pas nouveau, hein. Il est en croisade depuis très longtemps avec la majeure partie de la gauche. Quand il est parti en Espagne, il n'a eu aucune pudeur pour aller manifester avec l'extrême droite. Et aujourd'hui, il revient en France pour faire des leçons de lutte contre le Rassemblement national, tout en appelant à voter pour Valérie Pécresse, qui elle-même marche dans les pas de l'extrême droite. Tout ça n'a absolument aucun autre sens que de voir à quel point cet homme a perdu toute boussole. Vous savez, il avait théorisé il y a deux gauches irréconciliables. En réalité, il y a la gauche et il y a Manuel Valls, et les deux sont irréconciliables. Je ressens beaucoup d'agitation, de fébrilité, en fait, du côté de Valérie Pécresse, qui est pourtant annoncée comme étant la gagnante. Et en réalité, progressivement, les uns et les autres se rendent compte que oui, nous pouvons gagner la région et enclencher un changement de cap assez profond. Et c'est ce qui effraie et c'est ce qui motive sans doute toutes ces injures, ce manque de confrontation sur le fond.
Clémentine Autain, candidate La France Insoumise sur la liste menée par Julien Bayou en Ile-de-France, elle répondait aux questions de Claudia Bertram pour Europe 1. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, maintenant le deuxième tour dimanche s'annonce très serré avec d'un côté le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani, et de de l'autre, le LR Renaud Muselier, le président sortant en PACA qui a obtenu aujourd'hui le soutien de l'écologiste Jean-Marc Governatori, arrivé quatrième du premier tour, mais aussi celui de Nicolas Sarkozy, l'ex-chef de l'État qui appelle à voter Muselier dans une interview à Nice Matin, Aurélie Herbemont.
Oui, Nicolas Sarkozy sort de sa toute relative retraite politique pour voler au secours de Renaud Muselier. « J'ai choisi de faire une exception pour la région PACA », dit l'ancien président, « parce que je suis inquiet de la situation ». Un sondage donne aujourd'hui 51-49 pour le président LR sortant face au candidat RN. Autant dire qu'on est dans la marge d'erreur et qu'il est bien difficile d'anticiper qui va l'emporter dimanche. Les amis doivent se manifester dans les moments moins faciles. « C'est ce que je fais », explique l'ancien chef de l'État, et d'appeler à la raison les élus de droite qui ont refusé de soutenir Renaud Muselier au premier tour à cause de l'accord avec En Marche. « Si Renaud perd, vous perdrez tous », prévient Nicolas Sarkozy. Au passage, il égratigne son ancien ministre, Thierry Mariani, passé dans le camp Le Pen. « La trahison des engagements, c'est lui ». Bref, Nicolas Sarkozy fait le job, comme on dit, pour soutenir Renaud Muselier, mais sans aller jusqu'à faire un déplacement à ses côtés, car dimanche, le candidat de la droite devra aussi pouvoir compter sur les voix de la gauche et des écologistes.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. L'abstention devrait encore être la grande gagnante au deuxième tour des régionales et départementales. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, seulement 36% des Français ont l'intention de se rendre aux urnes, soit à peine mieux que dimanche dernier où 2/3 des électeurs n'étaient pas allés voter. Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin ont convenu de déjeuner ensemble la semaine prochaine pour clore la passe d'armes qui les a opposés hier. Selon plusieurs sources, le ministre de la Justice aurait reproché à son collègue de l'Intérieur d'avoir félicité Xavier Bertrand pour son score au premier tour des régionales. Une trahison pour le garde des Sceaux. Ce à quoi Gérald Darmanin lui aurait répondu « Commence par gagner une élection ».
Europe Soir, Julien Pierce.
On a tous en mémoire cette phrase accusatrice. Omar m'a tué. Trois mots écrits avec le sang de la victime. Ghislaine Marchal, retrouvée assassinée dans la cave de sa villa il y a 30 ans, jour pour jour. Immédiatement, tous les soupçons se sont portés sur son jardinier marocain, Omar Radad, condamné à de la prison en 1994, puis qui a retrouvé la liberté après une grâce partielle accordée par le président Chirac. Une grâce qui n'a pas blanchi Omar Radad, il est toujours coupable aux yeux de la justice. Eh bien, une nouvelle expertise ADN pourrait bien l'aider à prouver son innocence. Son avocate a en tout cas déposé aujourd'hui une nouvelle demande en révision de sa condamnation, Justin Morin.
Oui, moment solennel ce midi devant le grand portail du palais de justice. L'avocate Sylvie Noakovitch, entourée de l'académicien Jean-Marie Rouard, de l'ancien député Georges Fenech et d'autres, tous ici pour rappeler leur engagement en faveur d'Omar Haddad. Au centre, son avocate transporte un énorme dossier qu'elle a déposé au magistrat de la cour de révision.
Nous sommes à un grand tournant historique dans cette affaire. Parce que ça fait 30 ans que mon client souffre. 30 ans qu'une femme aussi a été tuée dans des conditions extrêmement sauvages. Un innocent aujourd'hui se bat depuis 30 ans pour prouver son innocence. Omar Haddad, même s'il n'est pas là aujourd'hui, il est là avec moi en pensée. Il attend énormément, énormément de ce procès en révision. Les éléments nouveaux que j'apporte sont essentiels.
Ces éléments nouveaux dont parle l'avocate datent en fait de nouvelles analyses. Sur l'une des deux portes où les inscriptions en lettres de sang ont été retrouvées, 35 traces d'un ADN masculin ont été découvertes. Et selon l'expert qui a rédigé le rapport, il y a peu de chances pour qu'il s'agisse de pollution, c'est-à-dire d'un ADN laissé par les enquêteurs par exemple. Lui favorise l'hypothèse d'un dépôt au moment des faits et donc l'existence d'un potentiel nouveau suspect. Maître Sylvie Noakovitch appelle à ce que tous les moyens soient utilisés pour découvrir à qui correspond ce nouvel ADN. Cela pourrait déboucher sur un nouveau procès afin qu'Omar Haddad soit enfin innocenté.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Peut-être le dénouement dans la disparition de Lucas Tronche, cet adolescent de 15 ans, introuvable depuis 2015. Des ossements possiblement humains ainsi que des vêtements et un sac similaire à celui qu'il portait ont été découverts ce matin à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, à moins d'un kilomètre du domicile de ses parents. Des examens médico-légaux et si possible génétiques seront réalisés sur les ossements, précise le procureur de Nîmes. À l'étranger, image impressionnante en provenance ce soir des États-Unis. Un immeuble résidentiel près de Miami s'est effondré en pleine nuit. Bilan provisoire, un mort, mais les autorités locales affirment être sans nouvelles d'au moins 99 personnes potentiellement prises au piège sous les nombreux décombres. En football, pas de rencontre ce soir à l'Euro. Les équipes bénéficient d'un peu de repos avant le début samedi des huitièmes de finale. Après le nul de partout hier soir face au Portugal, les Bleus joueront lundi face à la Suisse. Match que pourrait ne pas disputer Thomas Lemar. Le milieu de terrain s'est blessé en début de soirée à l'entraînement, tout comme l'attaquant Marcus Thuram. On ignore pour l'heure la durée de leur indisponibilité. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le monde du ballon rond s'apprête à vivre une petite révolution. L'UEFA va supprimer dès la saison prochaine en Coupe d'Europe la fameuse règle du but marqué à l'extérieur, règle qui servait à départager deux équipes à égalité après leur match aller-retour. Simon Rubin, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour déterminer le vainqueur ?
Eh bien, à la place, on aura droit à des prolongations suivies de tirs au but. Par exemple, cette saison, le PSG a éliminé le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. Grâce à la fameuse règle du but à l'extérieur, Paris gagne avec un but d'écart à Munich, puis perd avec un but d'écart à domicile, mais en ayant marqué 3 buts en Allemagne contre un seul pour les Allemands en France. Alors, sans cette règle, eh bien, un tel scénario aurait conduit à des prolongations. Alors, selon l'UEFA, cette règle du but à l'extérieur, elle bride les équipes qui reçoivent, les incitant à prendre le moins de risques possible et donc in fine tuerait le spectacle. C'est assez discutable et certains fans de football regrettent déjà cette règle introduite en 1965. Alors il faut y voir une tentative de plus pour moderniser le football européen. Rappelons que cette sacro-sainte règle du but à l'extérieur, cela fait des années qu'on parle de la supprimer. Cette fois, l'UEFA est donc passée à l'acte. Avec, dit son président, la volonté de renforcer aussi l'équité de la compétition. Désormais, peu importe le nombre de buts marqué, c'est l'équipe qui gagnera sur la somme des deux matchs qui sera qualifiée. Au moins, ça a le mérite d'être simple.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. On termine avec la météo, avec au programme demain, Laurent Cabrol, un temps beaucoup plus agréable.
Effectivement, Julien, demain est une journée de transition avec du soleil pour beaucoup d'entre nous. En tout cas en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, sur le Massif central, le Poitou-Charentes, les régions du Sud-Ouest et la région Rhône-Alpes, nous aurons de belles éclaircies. Ce sera donc un bon répit et pour beaucoup d'entre vous, une journée fort agréable. Et puis, près de la Méditerranée, certes, il y aura du soleil, mais avec pas mal de vent, 60-70 km/h. Il s'agit tout simplement du Mistral et de la Tramontane que vous connaissez bien. En Alsace, encore quelques petites averses. Allez, ce sont les dernières. Mais le temps change quand même, puisque cette journée ensoleillée ne durera pas plus que la journée de vendredi. Ensuite, nous allons voir apparaître des nuages et des petites pluies dès le matin sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Ces petites pluies et ces nuages vont gagner dans le courant de l'après-midi et de la soirée les Pays de la Loire, le centre, la région parisienne, la Champagne et les Ardennes. Vous l'avez compris, c'est une nouvelle perturbation qui arrive par le nord-ouest. Et cette perturbation, eh bien, ne va pas en rester là. Elle va traverser la France à la fois vendredi et samedi. Et samedi, dimanche et lundi probablement. Enfin bref, là, les 4 jours qui viennent seront sous l'emprise de cette zone de petite pluie qui donnera cette petite pluie au contact de la chaleur des orages. Bref, le temps ne change pas. Les températures maximales entre 18 et 30 degrés. Alors, une belle amplitude, 18 au Havre, 19 à Clermont, 20 degrés à Lille et Caen. À Paris, Limoges, Nancy et Rennes, 21. Là, on est dans les températures très fraîches pour la saison. 23 à Toulouse et Bordeaux. Puis les températures presque normales, 28 à Marseille et 30 degrés en Corse.
Voilà. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamo de boursier.com, suivi de l'interview Echo. N26 veut devenir l'une des principales banques de France. Son directeur général sera l'invité dans quelques minutes d'Emmanuel Duteil. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamo de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street bat de nouveaux records ce soir sur fond d'accélération de la reprise économique.
Oui, les craintes concernant l'inflation semblent oubliées à Wall Street. On a un Dow Jones en hausse, en forte hausse de 0,95%, 34 197 points, un record effectivement sur le Nasdaq, plus 0,69%, 14 370 points. La croissance du PIB américain au premier trimestre est ressortie à 6,4%. Donc aux États-Unis, en rythme annuel, c'est très soutenu. Du coup, toutes les valeurs de croissance grimpent ce soir. On a les valeurs de technologie en particulier qui sont très bien disposées. Microsoft plus 0,5%, Google plus 0,3%, Tesla accélère en hausse de 3,5%, 679,82$. Des hausses aussi sur Facebook plus 0,7%, sur IBM plus 0,5%. Il n'y a qu'Apple qui est stable, 133,40$ quand même. Et puis le pétrole campe toujours aussi fermement au-dessus des $73 le baril WTI. Ça donne Exxon en hausse de 0,4%, le groupe Shell plus 0,4% aussi, Chevron plus 0,8%. L'euro est beaucoup plus calme, il revient sur les 1,19 face au dollar.
La bourse de Paris a elle aussi rebondi de plus de 1% pour repasser au-dessus des 6600 points.
Oui, avec cette accélération économique, ça donne des marchés bien disposés. Le CAC 40 a regagné 1,22% exactement, 6631 points. Après son repli de 0,9% hier, ça repart fort avec plusieurs gros dossiers qui sont repartis à la hausse comme Europcar plus 13%, alors que le loueur est courtisé par certains constructeurs automobiles. On a tout le secteur financier qui remonte aussi avec Coface plus 6% à 10,26€. Le broker Berenberg vise un cours de 12,40€ sur Coface. Puis toutes les banques, donc BNP plus 1,1%, Crédit Agricole plus 1%, Société Générale gagne même plus de 3%. De gros dossiers aussi comme EDF, comme Total ou Schneider remontent de 2%. Et puis c'est un nouveau record historique pour Pernod Ricard, en hausse de 2,1% au plus haut, donc 184,40€ après des ventes meilleures que prévues.
Mais il y a une exception dans tout ça, c'est le titre Orange qui a terminé en baisse.
Une petite baisse de 0,4%, 9,62€ parmi les rares déceptions du jour. Le groupe Orange emprunte 1,5 milliard d'euros sur le marché obligataire pour continuer de travailler son bilan. Le titre fait partie des quelques valeurs qui s'affichent dans le rouge depuis le début de l'année. C'est très rare, Orange en baisse ce soir de 0,4%. Les autres places financières sont en hausse, donc le DAX gagne 0,9% à Francfort avec Bruxelles, Madrid plus 1,3%, Milan plus 1,4% et le CAC 40 en hausse d'1,22%, 6631 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de boursier.com et à demain Didier. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Jérémy Rosselli.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général pour la France et le Benelux de N26. Alors, c'est quoi N26? C'est ce qu'on appelle une néobanque. Ça fait 4 ans et demi que vous êtes arrivé dans l'Hexagone puisque vous êtes de nationalité allemande. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que N26 a atteint quand même assez rapidement, je viens de le dire, en 4 ans et demi, les 2 millions de clients en France. Ça veut dire qu'il y a une demande pour ce genre de banque. Mais pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous faites de différent du côté de N26?
Alors effectivement, aujourd'hui, il y a une demande extrêmement forte puisqu'on a plus de 2000 nouveaux clients qui rejoignent N26 tous les jours. C'est pour ça qu'on a maintenant 2 millions de clients qui font confiance à N26. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, N26, c'est surtout une boîte de tech qui fait de la banque. Ça veut dire qu'on est capable de mettre la technologie au service du client pour simplifier la banque. On est capable aujourd'hui de faire tout de façon extrêmement simple avec son téléphone mobile. Vous pouvez ouvrir votre compte même un dimanche, même depuis votre canapé. Ou vous pouvez faire aussi toutes les actions standards, par exemple changer votre code PIN, toutes ces choses-là qui normalement demanderaient un rendez-vous dans une agence qui est souvent fermée ou qui vous demande de vous lever un dimanche matin ou un samedi matin, pour aller dans votre agence bancaire. Au-delà de ça, et ça c'est le point qui est extrêmement important, on est aussi capable d'être, grâce au digital, à avoir une structure de coût qui est extrêmement faible et donc d'être extrêmement compétitif en termes de prix, parce qu'aujourd'hui c'est important pour les clients. Aujourd'hui, on est par exemple capable d'avoir une offre de base qui est entièrement gratuite, sans absolument aucune condition pour les clients.
Alors vous avez quand même un client sur deux qui opte pour une offre payante, donc ça peut vouloir dire que l'offre gratuite n'est pas suffisante.
Non,
et comme chez tout le monde, il faut payer à un moment.
Ça veut surtout dire qu'il y a des clients qui ont des besoins différents. En fait, on voit qu'il y a d'abord d'un côté des clients qui veulent simplement une banque simple pour leur vie de tous les jours. Et puis, on voit qu'il y a des clients qui ont besoin d'offres un petit peu différentes. Par exemple, il va y avoir des outils pour budgéter. Par exemple, nous, on a lancé une fonctionnalité qui s'appelle les espaces, qui vous permet, par exemple, de mettre de l'argent de côté. Et après, on a, par exemple, d'autres clients qui ont, par exemple, besoin d'assurance quand vous voyagez, donc avec M26 You. Ou des assurances encore plus développées, par exemple avec la micro-mobilité pour assurer votre téléphone mobile avec N26 Metal. Donc à chaque client, il y a une offre différente.
À chaque client, il y a une offre différente. Justement, c'est qui le client moyen de N26? On peut en avoir une petite photographie?
Alors, N26, ça s'adresse, si vous voulez, à tout le monde, à vous, à vos frères, à vos cousins de manière générale. On voit principalement qu'on a à peu près 4 clients sur 10 qui est entre 25 et 35 ans. C'est normal parce que c'est aussi la population qui adopte les usages digitales le plus rapidement. Mais ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est qu'on a aussi 4 clients sur 10 qui a plus de 35 ans. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Après, au-delà de ça, et je pense qu'il y a vraiment un chiffre qui parle vraiment à tout le monde, c'est que N26 a des clients dans 13 000 communes en France. Là où typiquement, finalement, les grandes banques traditionnelles ferment leurs agences, Aujourd'hui, on a des clients dans beaucoup de communes en France. C'est là où vous voyez, en simplement 4 ans et demi, nous, on a été capable d'avoir des clients dans une commune en France sur 3, là où les agences bancaires ferment leurs agences, les banques ferment leurs agences. Aujourd'hui, on estime que de toute façon, dans les prochaines années, les banques traditionnelles fermeront une agence sur 2.
Vous êtes avec des clients pour qui vous êtes la deuxième banque ou il y a des clients qui arrivent à se passer complètement de leur banque? Parce que je voyais par exemple qu'en moyenne, le client dépense quand même chez vous 1050 euros par mois avec 20 transactions. J'ai trouvé que c'était élevé comme niveau de dépense. Est-ce que ça veut dire que vous êtes la première banque ou que vos clients sont quand même assez riches?
Alors, ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, c'est que les clients d'N26 s'en servent pour leur vie du quotidien. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous allez faire du shopping, que ce soit dans la vraie vie ou en ligne, pour aller au restaurant ou dans les transports. Bien entendu, aujourd'hui, on propose pas tous les services bancaires. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et d'ailleurs, les clients à qui on parle sont prêts à faire de N26 leur banque principale en général.
Alors justement, là, peut-être juste arrêtons-nous quand même sur ce point. Vous dites on est en train d'y travailler. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, il vous demande du prêt immobilier. Est-ce que ça va être à court terme disponible sur N26?
Alors la réponse est non, mais pour une raison très simple. Aujourd'hui, si vous voulez, le prêt immobilier, c'est un peu comme votre téléphone fixe chez vous. Il est chez vous, mais vous en servez plus. Je suis sûr que vous vous souvenez même plus de la dernière fois où vous êtes servi de votre téléphone fixe. Mais de la même façon, vous avez aussi votre téléphone mobile. Et aujourd'hui, N26, ou la banque mobile, c'est votre agence que vous avez dans votre poche systématiquement. Donc on est vraiment en train d'avoir une distinction entre les deux usages. Et nous, ce qui nous intéresse...
Mais on sait aussi que le prêt immobilier, c'est la meilleure façon pour les banques de faire venir un client et souvent de le garder derrière. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, on ne peut pas être la seule et unique banque du client. Et que même si c'est pas obligatoire, souvent les banques demandent à ce que le salaire et une partie des transactions se fassent sur le compte du crédit immobilier.
Mais ça, c'était dans le passé. En fait, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et la loi, même la loi Macron, commence à se développer aussi à ce niveau-là, où les clients ouvrent un compte, notamment pour avoir leur prêt immobilier, puis finalement utilisent N26 ou une autre de nos banques pour leur vie de tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui devient extrêmement simple, et on commence à avoir vraiment cette distinction entre le téléphone fixe et le téléphone mobile, comme on l'a vu il y a une quinzaine d'années.
Et votre ambition, justement, grâce à tous ces produits que vous allez proposer, elle est quand même très forte. Très vite, là, vous misez sur 5 millions de clients.
Bah effectivement, hein, si vous voulez, aujourd'hui, on a atteint les 2 millions de clients en seulement 4 ans, en faisant quasiment aucun investissement marketing. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart des clients chez N26 nous rejoignent grâce au bouche-à-oreille. Hein, donc, ça prouve aussi la qualité de notre service et la pertinence. Aujourd'hui, on va continuer à développer notre notoriété. On va continuer à investir notamment au marketing. Mais on va aussi continuer à développer notre innovation, donc avec beaucoup de fonctionnalités qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et aussi continuer à développer notre offre. Donc aussi, on voit très bien que 5 millions de clients, c'est quelque chose qui est envisageable d'ici 2 ou 3 ans.
Donc, vous voulez vraiment devenir l'une des principales néobanques en France avec cette réussite?
On est déjà la première néobanque en France. Aujourd'hui, maintenant et dans les 2 ou 3 prochaines années, c'est de devenir une des principales banques en France.
Une des principales banques en France. Merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Jérémy Rosselli, qui est donc le directeur général France et Benelux de N26. Un grand merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci Emmanuel Duteil et merci à votre invité. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec Libération, variant Delta, ça va piquer, titre Le Quotidien qui revient sur cette estimation donnée aujourd'hui par le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies. Le variant indien, Delta, c'est son nouveau nom, pourrait représenter d'ici fin août 90% des contaminations en Europe. Il est déjà responsable de 10% des nouveaux cas en France. Le problème, c'est qu'un tiers des Français n'est absolument pas protégé, ils n'ont ni eu le Covid, ni été vaccinés. Or, avec ce variant hautement transmissible, c'est suffisant pour provoquer une reprise de l'épidémie, met en garde dans Libé le virologue Bruno Lina. Voilà pourquoi l'exécutif appuie sur le vaccin. C'est le titre de l'édito de l'Alsace. Je vous en parlais dans le journal. La campagne vaccinale marque le pas, faute de volontaires. Ce qui a poussé aujourd'hui Jean Castex à lancer un avertissement sans équivoque. En déplacement dans les Landes, le chef du gouvernement a sous-entendu que la vaccination pourrait devenir obligatoire pour les personnels soignants, notamment des EHPAD, ce qui marquerait, écrit Laurent Baudin, une première étape vers une possible extension de la vaccination à toute la population. On n'en est pas encore là, mais la menace est bien réelle alors que se profile à l'automne une quatrième vague si l'on atteint pas très rapidement l'immunité collective. Une menace qui, pour l'heure, n'empêche pas l'économie française de profiter d'un vent d'optimisme, c'est le titre à la une des Échos. Le climat des affaires atteint ce mois-ci son plus haut niveau depuis 2007, selon l'INSEE, et cela profite particulièrement aux entreprises de taille intermédiaire. Par ailleurs, les Échos reviennent sur la décision du Conseil d'État d'annuler l'entrée en vigueur au 1er juillet des nouvelles règles de calcul du montant de l'allocation chômage, un répit pour les précaires qui, malheureusement, ne devrait pas durer. La réforme de l'assurance chômage sera réintroduite sous 3 mois, croit savoir le quotidien économique. On termine avec cette photo à la une du Figaro. On y voit d'imposants blocs de béton, probablement un bunker, recouverts par la végétation. La forêt de Verdun en grand danger, c'est le titre du journal. Plantée à la fin des années 20 et conçue comme le linceul du champ de bataille, ce massif, composé en partie d'épicéas, est victime d'un insecte ravageur. C'est à lire donc demain dans le Figaro. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la Libre Antenne.
Exactement, et nous on se retrouve pour votre flash à partir de 23h.
À tout de suite.
À tout de suite.